Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, pas de Thibaut Henton plongé dans son ordinateur, ni même de complément d'enquête. On entame aujourd'hui notre série des grands entretiens américains de fin de saison, réalisés tous par Claire Richard depuis New York. Et pour commencer, Finn Brunton, l'auteur d'une histoire du spam, le courrier indésirable, avec qui Claire s'est entretenue il y a quelques mois à New York. Ça commence presque tout de suite.
Bonjour Finn Brunton. Donc vous êtes enseignant à l'université de NYU à New York et vous vous intéressez aux relations entre la culture, la société et les technologies de l'information. Et vous venez de publier surtout une histoire du spam qui s'appelle Spam, A Shadow History of the Internet, donc une histoire de l'ombre de l'Internet. Et c'est à ce sujet aujourd'hui qu'on se rencontre donc pour parler du spam. Alors pour la plupart des gens, moi comprise, spam, c'est un mot qui évoque immédiatement ces emails qui vous promettent d'agrandir phénoménalement la taille de votre pénis ou qui vous écrivent de la part d'une personne richissime qui est prête à vous léguer toute sa fortune en échange de vos codes bancaires. En bref, c'est du déchet, c'est quelque chose qu'on jette immédiatement, qu'on met dans le dossier corbeille de sa boîte mail. Et mais vous avez passé 3 ans de votre vie, puisqu'il s'agit de votre travail de thèse, à faire des recherches justement sur le spam. Alors pourquoi ? Pourquoi s'intéresser au spam ? Pourquoi passer autant de temps sur une question pareille ?
Quand nous, les internautes, on se retrouve face à un spam, ça déclenche une sorte d'irritation étrange. Alors, par spam, j'entends plusieurs choses. Le mail bizarre qu'on met à la poubelle, le post Facebook qui ne nous est pas spécialement destiné, ou le site web vers lequel un clic nous a mené et qui se révèle un amas de publicité absurde. On a pris l'habitude de ne pas faire attention au spam. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que le spam est partout, que c'est une question gigantesque. En fait, sur Internet, il y a beaucoup plus de spam que n'importe quel autre contenu. Par exemple, si on ne regarde que les emails, la proportion de spam représente entre 80 et 90% selon les jours de l'ensemble des mails envoyés. La majeure partie de ce qui nous arrive sur le net, c'est du spam. On ne s'en rend pas compte parce que nos systèmes de filtrage parviennent à en bloquer la majeure partie. Mais le spam, en tant que système, a un tel poids qu'il influence la manière dont les moteurs de recherche fonctionnent, la façon dont les mails sont envoyés et le développement de l'Internet lui-même. Alors c'est presque invisible parce qu'on a développé, on a mis en place plein de systèmes pour le rendre invisible. Mais c'est pourquoi, pour comprendre l'Internet comme il est, on doit comprendre comment le spam fonctionne.
Vous donnez une définition du spam comme c'est l'usage des infrastructures, des technologies de l'information pour exploiter des agrégats d'attention humaine. Cette formule est vraiment centrale dans votre étude et avant qu'on se penche de plus près, qu'on plonge vraiment dans l'histoire du spam, est-ce que vous pouvez un peu résumer, nous expliquer comment l'étude du spam permet de comprendre comment Internet est devenu justement un médium qui fonctionne sur cette économie de l'attention ?
Ce qui sous-tend toute la définition que je donne du spam, que je définis comme un moyen d'exploiter ces espaces où la technologie capte l'attention humaine, c'est la compréhension de la manière dont la valeur se crée et circule sur Internet. Si on ne s'intéresse pas à la manière dont l'attention est devenue une source de profit en ligne, on ne comprend rien aux dynamiques propres du spam. Into something that was a source of revenue. The internet has changed fairly recently into something in which l'internet a changé et c'est assez récent. Il est devenu un espace commercial, un système qui capte l'attention et qui en tire profit. Un peu comme la télévision en fait.
But before that,
mais avant ça, le modèle était très différent. L'idée d'Internet, la manière dont il aurait pu fonctionner, sa raison d'être, les types de communion et de communication qui étaient envisagés. Tout ça n'avait pas pour but de capter un maximum d'attention afin de vendre des espaces publicitaires et de faire de l'argent. Le spam, à ce titre, appartient au début de la transformation de l'Internet en support publicitaire, de telle sorte qu'il nous donne à voir la manière dont cette transformation est arrivée.
And it very much offers a sort of undergirding perspective on how that happened.
Quelles archives avez-vous utilisées pour une histoire du spam, c'est-à-dire une histoire des choses qu'on jette, qui sont pas pertinentes, qui dérangent, enfin qu'on détruit?
The history of spam is especially fascinating to research.
L'histoire du spam est tout à fait fascinante à étudier parce qu'il s'agit là de choses qui sont en effet globalement ignorées, dénigrées, mises de côté, etc. La fascination opère, à mon sens, à deux niveaux. D'une part, l'investigation est très très fertile, on révèle le secret de ce qu'il y a au cœur de l'Internet. D'autre part, cela nous fait agir en archéologue. Vous savez, les archéologues adorent tomber sur des tas d'ordures, sur ces amas de déchets enterrés que les premiers hommes ont laissés derrière eux. C'est précisément parce que, bien souvent, c'est là que vous apprenez le plus de choses sur une société. Beaucoup plus, par exemple, que vous n'en auriez appris avec une photo. Quand vous pouvez voir les morceaux de poterie, la monnaie, les os, vous comprenez ce que les gens mangeaient et buvaient. Vous arrivez à une compréhension beaucoup plus fine et plus intime qu'en concentrant vos recherches sur les temples ou les palais. Pour obtenir le maximum d'informations sur les spams, il suffit de consulter la liste de toutes les personnes qui essaient de créer des filtres anti-spam. Alors, ça ne vous donne pas accès à la totalité des spams existants, mais ça vous donne un florilège des théories en cours sur le fonctionnement des spams et sur ce qui les distingue des, disons, discussions en ligne légitimes. Ce qui, au final, dresse un portrait d'Internet de ce à quoi on voudrait qu'il ressemble, ce à quoi on voudrait qu'il serve. Et puis, l'autre chose amusante à ce sujet, c'est qu'à l'image du remarquable adage qui veut que documenter la civilisation revienne toujours à documenter la barbarie, toute documentation du spam, c'est aussi une documentation de la naissance d'une forme particulière de délinquance numérique. Enquêter sur le spam en fouillant dans les archives, ça revient à documenter l'avènement des infractions sur Internet, à découvrir ce qu'il est possible de faire de mal sur Internet. Et pour ça, il faut aussi tenir compte des contraintes juridiques et des discussions qui eurent lieu au début de l'Internet sur l'attitude à adopter à l'égard du spam. Discussions qui furent toutes publiques dans différents lieux du réseau. D'ailleurs, l'une de ces discussions compte 1 million de messages. Et plonger dans ce million de messages prendrait des décennies, reviendrait en gros à étudier, la constitution d'une gouvernance de l'Internet. Alors, à plus ou moins grande échelle, les technologies sont toujours des lieux de négociation, et précisément parce qu'elles impliquent à la fois des mots et des objets techniques, cette négociation non seulement agit, mais se donne à voir. Tout ça est assez spectaculaire. Une grande partie de ce qui se passe dans la lutte contre le spam, qui existe depuis plus de 30 ans, va se perpétuer dans le futur.
Precisely because it so often involves words as well as technical objects. It involves performances as well as it were, performance. Those are dramatic spaces. And so much of the structure of what was happening in the struggle over spam that plays out over 30 years and counting, going forward into the future.
Qu'est-ce que ça a été le premier spam?
L'histoire du premier spam, c'est une histoire extraordinaire. Je pense qu'elle fait partie des histoires qui éclairent la manière dont le réseau s'est développé, la manière dont il a changé, la manière dont il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout a commencé avec ARPANET, et en un certain sens, peut-être même avant ARPANET. Alors, qu'est-ce que c'est ARPANET? ARPANET, c'est l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée. C'est un groupe de recherche militaire et scientifique qui existe encore aujourd'hui sous le nom de DARPA. Alors aujourd'hui, la DARPA construit des robots terrifiants, des drones, d'autres choses dans le genre. Mais à l'origine, elle travaillait sur tout un tas de projets destinés à rendre les ressources stockées dans un ordinateur accessibles à une petite communauté de militaires, d'ingénieurs et de chercheurs. Tout le processus qui a constitué tout cela, ça a produit un nombre d'effets que personne n'avait anticipé. Alors, à vrai dire, il s'agissait là d'un tout petit monde, de gens remarquables, intelligents, très bien éduqués, avec des relations. Mais c'était quoi? C'était une centaine de personnes, 1 millier au maximum. Et dans l'atmosphère très particulière de cette petite communauté, c'est là que l'histoire du réseau a commencé. Ils ont développé un système qui, dès l'origine, était destiné à s'étendre à toute la planète, mais ils l'ont développé dans une atmosphère de confiance mutuelle assez unique. Parce qu'ils se connaissaient déjà entre eux, au sens propre du terme, ils allaient dans les mêmes conférences, ils se connaissaient en chair et en os. Dans les premiers jours d'ARPANET, par exemple, on trouve un document fameux qui a été mis en circulation par l'une des figures les plus importantes d'ARPANET, un dénommé John Postel, l'un des premiers architectes du réseau. Ce document s'appelle « On the Junk Mail Problem », du problème des mails absurdes. On est dans les années 70, hein, et la réponse de Postel au problème de l'abondance de mails qui circulent déjà sur le réseau, cette réponse, elle est merveilleusement simple. Il propose d'appeler la personne qui, vous l'aurez compris, est responsable de cette nuisance et tout simplement demander d'arrêter. Parce que bien sûr, vous connaissez cette personne, il n'y a aucune raison que vous ne la connaissiez pas. Tout le monde dans ce réseau se connaît. Mais ARPANET, prenant de l'ampleur et transportant de plus en plus de contenu, est arrivé le jour du premier envoi du mail commercial. Il s'agissait d'un message publicitaire d'une entreprise du nom de Digital Equipment Corporation. Une entreprise pionnière en informatique, un message envoyé à toutes les personnes de la côte ouest qui utilisaient ARPANET afin de leur faire savoir que les nouveaux ordinateurs de la boîte avaient été spécialement conçus pour permettre la connexion à ARPANET. Alors, d'un certain côté, ça relevait du bon sens parce qu'il s'agissait pratiquement de la seule population au monde qui, A, pouvait être intéressée et, B, pouvait être en position d'acheter ces nouveaux appareils. Sauf que ça a déclenché une tempête, un débat immédiat, une énorme discussion qui était exactement la même qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire? À quoi notre système doit-il servir? Ce système a été créé par l'argent du contribuable américain, il a été construit par nous, pour notre propre recherche, qui n'est pas marchande. Alors pourquoi diable devrait-on accepter la publicité? Et cette question a été instantanément suivie par une autre. Mais attendez une minute, qui est ce nous? Qui est ce nous qui s'autorise à décider de ça? Et comment sommes-nous censés en être venus à cette décision et l'avoir ensuite fait appliquer? Qui sommes-nous pour décider à la place des gens? Leur dire ce qu'ils doivent faire. Et bien, tout ce débat, au moment même de la constitution d'Internet, a eu lieu là, bien avant qu'il soit vu, qu'Internet soit vu comme un objet politique.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de communauté Internet sans le spam?
Je pense que depuis son origine, le spam est fondamentalement lié à cette communauté Internet. Et je pense que ce lien est toujours d'actualité aujourd'hui pour les mêmes raisons. Selon moi, le spam, c'est l'institutionnalisation de l'intrusion. Quelque chose survient, interrompant brutalement ce qui était en place et nous force à lui faire face ensemble, collectivement. Ça nous fait prendre aussi conscience que nous ne sommes pas seulement des nœuds sur des graphiques de connexion, que nous sommes en fait quelque chose qui commence à ressembler à une organisation politique, comme un peu comme quand un peuple en vient à prendre conscience de sa force.
Event, like a demographic, like a force that has to come to terms with itself.
Spam, une histoire secrète de l'Internet, c'est le titre du livre de Finn Brunton, chercheur en Media, Culture and Communication à NYU, l'université de New York, une histoire de la poubelle d'Internet qui, conformément aux lois de l'archéologie, donc, est aussi une histoire de l'Internet, Finn Brunton, avec lequel Claire Richard a eu la chance de s'entretenir à New York il y a quelques semaines, suite de l'entretien.
Passons à l'acte 2 de cette histoire. C'est dans les années 90, Internet s'ouvre aux acteurs privés, commence à devenir un médium commercial. Et comment le spam réagit et répond et reflète cette évolution du médium?
Alors, pour comprendre comment le spam s'est mis à changer, il faut revenir aux années 90 et plus spécifiquement à une période étonnante qui s'étend entre 1995 et 2003. Pour ce faire, il est important de comprendre à quoi ressemblait Internet première version. Alors, je trouve qu'on oublie trop souvent son existence et qu'il est important de la rappeler. Internet était, dès son origine, destiné à tous. Mais il était sans doute destiné à une utilisation, un usage très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de grand magasin, de grand centre commercial. Le spam a été depuis le début une activité du réseau que les gens qu'ils combattaient différenciaient radicalement de la publicité normale qui, elle, est légale. Dans un texte datant de 1995, il est expliqué que c'est en énumérant un par un tous les péchés du réseau que nous pourrons comprendre comment les neutraliser. Or, dans cette énumération, il y avait les activités commerciales et la publicité, mais aussi dans une autre catégorie, le spam, qui n'était considéré alors que comme une sorte de nuisance, vous savez, comme le fait de se comporter mal, de trop écrire trop souvent, de copier des textes, de mal remplir les formulaires, etc. Aujourd'hui, on s'étonne que tout ça ait pu appartenir à la même liste de nuisances, mais ça vous fait prendre conscience qu'il fut un temps où l'Internet était les deux à la fois marchand et non marchand. Et puis, tout a changé entre le début des années 90 et 95, années où il y a eu la mise en place d'un système formel de transmission, un contrôle de l'accès à Internet. Alors qu'il était jusque-là d'usage essentiellement gouvernemental, Internet est passé aux mains des compagnies privées et aussitôt l'activité commerciale a commencé à exploser. Et c'est vraiment là, précisément en 1994, que cela s'est passé quand deux avocats ont envoyé un message sur Usenet, une sorte d'autre gros réseau non commercial géré par ses utilisateurs et qui a résisté un bon petit moment avant de se connecter à Internet. Quand donc, ils ont envoyé un message à tous les utilisateurs de Usenet, à tous les groupes de discussion actifs pour faire la promotion de leurs services juridiques. C'est à ce moment-là que le mot spam a soudainement bondi, si j'ose dire, en dehors de sa définition première. On est alors passé d'une activité en ligne abusive à des publicités envoyées au hasard, à tort et à travers. Les premiers spammeurs essayaient de tirer parti de ce réseau que les gens avaient créé. Ils ne manipulaient pas les utilisateurs, ils ne les arnaquaient pas. Ils ne faisaient rien d'autre que de la publicité un peu louche, il faut bien l'avouer, mais pas moins légitime que les autres, et ils ont en quelque sorte créé une tendance, et n'est pas revenu en arrière d'ailleurs, et pour cause, il n'y a aucune raison de le faire, parce que, évidemment, ça a créé tout un tollé dans la communauté, des mails acerbes par milliers, de la haine, de la moquerie, mais les initiateurs ont donné des interviews au New York Times, ils ont publié un livre sur comment faire du commerce en ligne, ils ont amorcé l'avènement du web marketing comme d'une chose pour laquelle Internet était fait depuis toujours.
Et alors, dans les années 90, donc il y a cette explosion comme ça du spam. Et donc ça, évidemment, c'est l'explosion aussi des spammeurs. Et ce que vous décrivez dans votre livre, c'est un monde alors qui est un peu l'opposé du monde des hackers, au sens où c'est vraiment un monde de médiocrité, d'avocats véreux, d'escrocs à la petite semaine. Enfin, il n'y a absolument rien de ce panache, même dans la criminalité des hackers. Et alors, donc je suis un peu curieuse sur ce monde des spammeurs. Est-ce que vous avez pu parler avec certains? Est-ce que vous avez même cherché? À quoi ça ressemble ce monde-là? Et puis, du coup, évidemment, la question qui se pose immédiatement, c'est à quoi ça sert? Je veux dire, qui clique sur ces spams?
Spammers, at first, did it because... Well, they still do it, although the underlying...
Au début, les spammers ont commencé à spammer, d'ailleurs, ils continuent à le faire de même, même si les structures sous-jacentes ont changé, parce que finalement, c'était un très bon moyen de se faire de l'argent. Il ne s'agit pas de sommes astronomiques, hein, mais au moins, ils se font de l'argent, et parfois, un bon petit pactole, hein. En plus, c'est une manière de vous faire de l'argent facile sans vous mettre en grand danger. C'est la raison pour laquelle le spam est devenu une activité malhonnête et d'ailleurs convoitée par des puissants gangs criminels aux environs des années 2000. Avant ça, dans les années d'euphorie, entre 1995 et 2003, c'est un moyen pour les entrepreneurs qui désiraient se lancer dans un nouveau marché, un moyen qui nécessitait très peu de compétences, pas d'ingéniosité particulière et pas non plus de gros travail, qui exigeait juste des gens capables de se supporter la haine et le dégoût qu'engendrait leur activité. Après cette époque, c'est devenu finalement beaucoup plus dramatique. La plupart des premiers spammers importaient des pratiques commerciales qui existaient hors du numérique. Les premiers à organiser des envois de mails automatiques ou à mettre en place des appels téléphoniques automatiques, c'était ceux qui faisaient aussi des publicités louches dans les dernières pages des magazines d'haltérophilie, du téléphone rose, toutes sortes de petites arnaques et escroqueries. Et ces gens ont eu soudainement un nouvel espace de travail. Et ce qui est vraiment passionnant à voir, c'est comment la plupart des escroqueries les plus classiques des années 60, 70 et 80, comme on dit souvent, ont soudainement pris possession de ce nouveau format électronique. Ils ont soudainement eu un nouveau venue dans lequel travailler. Et c'est fascinant de voir combien
de très common, say 1960s, 1970s, 1980s, sort of classic cons suddenly turn up in this electronic format. Lovely spam, wonderful spam, wonderful spam, wonderful spam, wonderful spam, spam, spam.
Ce qu'on vient d'entendre, figurez-vous, ça n'est rien d'autre que l'origine du mot spam dans son usage numérique. Alors au départ, il y a une marque de jambon épicé, Spiced Ham, devenue Spam, très populaire aux États-Unis et en Angleterre. Puis évidemment des pubs radio pour promouvoir cette marque dans lequel le mot est répété à l'infini. Et puis ce qu'on a entendu, c'est un sketch des Monty Python, parodie du spot publicitaire où le mot est répété à l'ad-libitum, jusqu'à rendre impossible toute conversation. Et c'est manifestement à ce sketch qui a été emprunté par les premières communautés numériques, le mot spam, pour désigner donc ces messages indésirés qui arrivaient dans les boîtes mail. Voilà, juste une petite anecdote avant de poursuivre l'entretien américain de Claire Richard avec Finn Brunton.
Troisième acte, vous avez un peu évoqué le moment où ça, le spam entre de plein pied dans des activités criminelles de plus grande échelle. Qu'est-ce qui se passe au début des années 2000 qui lance la troisième mutation du spam?
So spam transforms in a very profound way.
Le spam a vraiment changé en profondeur au début des années 2000. En fait, je pense que 2003 est la date charnière à partir de laquelle le spam a vraiment commencé à se rapprocher des formes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'un marché mondial, planétaire, largement frauduleux et très, très, très puissant. On est arrivé là parce que pendant à peu près 8 ans, le spam a su vivre dans cette économie souterraine de la publicité. Or, ce caractère souterrain et caché rend très difficile le travail des législateurs pour mettre en œuvre des lois qui puissent enrayer cette pratique ou tout du moins pénaliser sérieusement son activité, tout en essayant par ailleurs de ne pas empiéter sur le domaine de la publicité en ligne, des mails publicitaires, etc. Et par ailleurs, ces lois sont forcément attaquées par des entreprises du spam qui, elles, gagnent de l'argent avec ce petit commerce. Ainsi donc, le spam est resté dans cette zone grise et ambiguë pendant un petit moment, jusqu'en 2003, où toute une série de lois ont éclos un peu partout dans le monde. Et l'un des promoteurs de la législation anti-spam aux États-Unis était Elliot Spitzer, qui est procureur général. Avant de voir sa carrière plombée par un gros scandale, il avait lancé une vaste campagne contre les spammers. Il s'était attaqué aux plus gros spammers et entendait bien les envoyer en prison et mettre fin à leur petit business. Ça modifiait largement les règles du jeu parce que tout à coup, vous ne pouviez plus surfer sur l'idée que vous étiez un chef d'entreprise qui explore un nouveau marché. Voilà, vous devinez un escroc. Donc, ça, c'est le premier aspect.
The way that these laws manifested themselves, the way that they struck the balance, and this becomes very important, the way they struck the balance between spam and advertising was to say, all right.
L'autre aspect et le fond de ces mesures juridiques, c'est la réponse à la question, mais comment distinguer le spam de la publicité? Eh bien, la ligne a été clairement tracée. Si vous voulez envoyer des messages publicitaires, vous devez respecter tout un protocole, vous devez préciser qui vous êtes, à qui vous envoyez cette publicité, pour le compte de qui, à quelle adresse les gens peuvent souscrire à un abonnement ou se désabonner. Autant de formulations exigées par la juridiction. Mais c'est également à ce moment-là que d'autres choses importantes sont arrivées. En effet, en 2003, c'est aussi la date charnière en matière d'innovation, et notamment l'élaboration de systèmes électroniques de filtrage avancés, capables de repérer, bloquer et écarter les spams. Ces systèmes y parviennent en regardant le contenu, ils sont capables de repérer le style d'écriture propre au spam.
Also, the rates of success for messages, including somewhat illegitimate messages,
et le pourcentage de réussite de ces messages a subi une chute vertigineuse, y compris celui des messages non repérés par les filtres. Alors, était-ce pour autant la mort du spam? Étions-nous arrivés à ce moment où une industrie entière C'est ce que beaucoup attendaient, oui, mais c'était sans compter les spammeurs. Les rescapés se sont appropriés la révolution technologique afin d'améliorer leur spam. Si nous avions été à l'ère de l'extinction des dinosaures, ces spammeurs seraient ni plus ni moins que la nouvelle espèce proliférante des mammifères. Bon, tout ça pour dire qu'ils se sont mis à agir de manière très différente. Ils ont quitté les entreprises à faible valeur ajoutée, ce qu'on a d'abord considéré comme une très bonne chose, hein, parce qu'il s'agissait d'entreprises qui vendaient des jouets de fin de série, des montres de contrefaçon ou du matériel pornographique, pour rejoindre une catégorie d'entreprises qui ne laisse aucun doute sur leur caractère véreux et se livrant donc à la fraude bancaire, l'usurpation d'identifiants et de mots de passe et très certainement du trafic de médicaments avec l'industrie pharmaceutique. Mais la plupart des spammeurs ne venaient pas pour cela. Et il y avait avant tout, ils venaient pour escroquer des gens de manière plus directe, leur soutirer toujours plus d'argent, quelles que soient les méthodes employés. Hein. Mais même s'ils arrivaient à récupérer plus d'argent qu'avant à chacun de leurs spams, ils n'avaient toujours pas les moyens de savoir combien de leurs messages étaient bloqués. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de développer un système qui permette d'envoyer plus de messages qu'ils n'en avaient jamais envoyés auparavant et qu'ils ont appelé botnet. Et c'est grâce à cet outil, le botnet, que les spams sont devenus ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir une véritable arme de guerre. Ça peut vous envoyer beaucoup plus de messages que vous n'avez jamais envoyé auparavant. Et c'est le système appelé le botnet. Et le botnet devient the thing that makes spam into what it is now, into a point where it actually becomes something more like a military weapon.
Qu'est-ce que c'est un botnet?
A botnet is perhaps the best way to describe it would be to just describe
what que la meilleure manière de décrire un botnet, c'est d'en parler comme d'un virus exponentiel. En fait, il prend la forme d'un message des plus ordinaires, à l'image de celui que pourrait vous envoyer un ami ou un collègue de travail, vous incitant à jeter un coup d'œil à la pièce jointe. Cette pièce jointe, c'est un document que vous allez télécharger, que vous allez lancer. Ah, il se peut qu'il ne s'ouvre pas, que s'affiche un message d'erreur. Mais quoi qu'il en soit, vous venez d'installer un virus sur votre ordinateur. Le mail que vous avez ouvert était en fait envoyé par l'ordinateur d'un de vos contacts, lui-même contaminé. Vous avez l'impression que rien ne s'est passé, alors qu'en réalité, une infection s'est insidieusement glissée dans votre ordinateur et a déjà commencé à en prendre le contrôle. Alors, elle force à se connecter constamment à Internet afin de télécharger des instructions provenant d'un serveur qui peut être à l'autre bout de la planète et puis à mettre ces instructions en application, par exemple, envoyer lui-même des spams en lui donnant la liste de vos contacts et une source textuelle à utiliser. Une fois que vous l'avez repéré, il efface toutes les traces de son passage pour s'enfuir sur une autre adresse mail à laquelle il envoie un message infecté, mais à laquelle il envoie aussi toutes sortes de choses très utiles, telles que les mots de passe, informations privées, contrats confidentiels et tant d'autres choses de ce genre qu'il a récoltées. C'est ça un bot. C'est quand un ordinateur télécharge des instructions cachées qui vont prendre son contrôle. Le botnet, c'est un système beaucoup plus large qui entoure cela, qui relie votre ordinateur à des milliers d'autres, à des dizaines de milliers, à des centaines de milliers, voire à des millions d'autres ordinateurs qui ont tous en commun d'avoir été contaminés. Pourtant, rien ne laisserait penser qu'ils sont contrôlés par une tierce personne. Rien ne semble avoir changé, mis à part le processeur, bon, qui peut être un peu ralenti. Et tous ces ordinateurs peuvent être contrôlés par une seule personne ou un tout petit groupe de personnes. Et à partir du moment où ils bénéficient d'une connexion haut débit, ils peuvent envoyer de 150 à 200 spams par minute, heure après heure, jour après jour. Par conséquent, le spam est passé très rapidement d'un marché expérimental à un marché où ils collaborent avec les fournisseurs d'accès à Internet afin de pouvoir envoyer une centaine de milliers de messages. Les spams, ce sont désormais des milliards de messages, des milliards de milliards de messages qui tous les jours peuvent circuler sans rien coûter grâce au botnet. Alors, quant au problème posé par le filtrage, bon, voici la réponse, hein, puisque vous pouvez submerger le système de messages. Et puisque vous pouvez construire des systèmes, vous pouvez créer des programmes assez intelligents pour modifier chaque message à quelques mots près, les rendant ainsi distincts les uns des autres et par là même beaucoup plus difficiles à repérer comme spam et à bloquer. Et de cette manière, vous pouvez contrecarrer l'essentiel de l'infrastructure en créant un véritable océan de spam dont seulement une toute petite proportion est attrapée par des filets pourtant très, très, très minces.
Alors justement, pour la question du phishing, donc ces emails qui cherchent à récupérer vos données bancaires, vos données privées, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui se passe une fois que ces données ont été collectées, c'est-à-dire quelle est l'économie souterraine dont ces données sont la matière première.
Quand votre ordinateur se trouve infecté par un logiciel malveillant que vous avez reçu par un spam, toutes les traces de son passage sont effacées, tandis que toutes les informations personnelles qu'il a récoltées et qu'il a trouvées utiles sont instantanément rassemblées, empaquetées avec celles de milliers d'autres gens, Et c'est comme ça, en bloc, qu'elles sont vendues. Quand vous regardez ces marchés-là qui existent, c'est assez fascinant. Hein. Comme par exemple le système de discussion en ligne historique, là, IRC, Internet Relay Chat. C'est un espace de discussion uniquement textuel hein, et qui ne permet de communiquer qu'avec des gens qu'on connaît déjà. Eh bien, j'ai vu sur IRC un message très simple hein, qui disait « J'ai 3000 numéros de cartes de crédit, j'en ai testé, disons, une petite partie au hasard, juste pour vérifier qu'elle fonctionnait. Je peux vous envoyer des codes, vous ferez de l'argent avec, mais vous devrez me verser un pourcentage sur ce que vous avez récolté, puisque c'est moi qui vous ai donné la combine. » On peut trouver un bloc de données sur des Australiens, des Allemands, des Russes ou des citoyens américains qu'un individu, à lui seul, dans un autre pays, peut exploiter en usurpant l'identité de centaines de personnes. C'est de cette manière que les données fabriquent une nouvelle économie. An identity theft project for those people. So what it actually happens is that your data enters a strange kind of economy. C'est une chose de collecter des données sur les gens, ce qui est malheureusement très très facile à faire. Mais alors c'en est une autre. D'arriver à en retirer des revenus. Hein. C'est un modèle où on récolte des données et où on les vend ensuite. On les vend à ce qu'on appelle dans le milieu des caissiers, c'est-à-dire des individus qui savent appeler une banque en se faisant passer pour un client, ce qui nécessite d'être du même sexe que la personne inscrite sur le compte, de parler la même langue avec le bon accent pour ne pas éveiller les soupçons. Mais ça peut être aussi des gens qui ont des contacts permettant de revendre des produits, comme un écran plasma, par exemple, acheté en usurpant l'identité de quelqu'un. Et ce procédé, c'est le même pour vos données. Elles sont gérées par l'une de ces organisations étonnantes. Alors, je dis pas ça parce que je les cautionne, hein, mais c'est tout de même incroyable de voir cette spécialisation dans la monétisation des données.
So your data kind of comes into this extraordinary community of people. I don't mean to sound so positive about it, but this extraordinary community of people who specialize in turning that data into money.
Et comme vous avez dit plus tôt que maintenant il y a effectivement moins d'acteurs dans le spam, mais qu'il s'agit d'acteurs plus puissants. Est-ce que c'est à ce type d'économie que vous pensiez ou est-ce que c'est d'autres types d'actions qui peuvent être aussi entreprises maintenant avec les botnets ?
The people who actually run global spam at this point, especially if we're talking about email, some other kinds of spam that are contemporary now, like spam on Twitter and Facebook and search engines.
Il y a d'autres formes de spam qui existent aujourd'hui sur Twitter, Facebook, à travers les moteurs de recherche aussi. Mais les gens qui sont à l'origine des mails spammés, de ce téléchargement quotidien et universel, hein, de ces dizaines et dizaines de milliards de messages, voire des centaines de milliards de messages, ne forment en fait qu'une toute petite communauté. Alors, il y a du mouvement dans cette communauté, bien sûr, puisque certains spammers sont arrêtés, que de nouveaux entrent en scène. Mais la majeure partie de tous les spams à travers le monde, c'est seulement produite par environ, je sais pas, 200, 300 personnes. Ce sont là de très petites organisations qui ont accès aux vastes ressources du botnet. Et ces petites organisations sont entourées d'une plus large communauté, cette fois d'individus qui cherchent à se spécialiser dans les manières diverses et variées d'usurper des identités. Mais il n'est pas évident de comprendre comment une industrie aussi massive puisse être produite par un si petit nombre de gens, par ailleurs très difficile à attraper. Hein.
Hard to think of anything else in the world where such an enormous industry is produced by such a tiny group of people, who nonetheless remain quite hard to actually catch.
Le morceau s'intitule Spam Me, Spam Moi, le groupe Dead Sexy. Pour introduire la dernière partie de l'entretien que Finn Brunton a donné il y a quelques semaines à New York à Claire Richard, Finn Brunton, chercheur à NYU et auteur de Spam, une histoire secrète de l'Internet, où il est question donc des spams, ces messages indésirables qui pullulent sur Internet et dont l'histoire est liée intimement à l'histoire des réseaux, suite et fin donc de cet entretien.
Vous avez aussi mentionné la militarisation du spam, c'est-à-dire donc l'usage de spam à des fins militaires, ce qui est quand même extrêmement surprenant, parce qu'une fois de plus, on est très très loin des emails qui peuplent nos corbeilles de mails. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, quel type d'usage, et est-ce que du coup, le spam est devenu une forme d'armes mercenaires que des acteurs puissants peuvent engager pour mener diverses campagnes?
Spam has become militarized in a
Le spam s'est militarisé en deux sens au moins. Premièrement, cette industrie mondiale peut accéder à tout ce qui est stocké sur vos ordinateurs personnels, peu importe l'endroit où ils se trouvent dans le monde, parce que dès qu'il y a des ordinateurs quelque part, une partie au moins est toujours infectée. La plupart du temps, les ordinateurs qui sont infectés sont des ordinateurs qui recensent des données classées secrètes. Et c'est comme ça que le spam s'est peu à peu retrouvé lié à l'espionnage. Aujourd'hui, il y a une tendance à abandonner une stratégie de surveillance et d'espionnage qui passe par des entreprises ou des services gouvernementaux pour se tourner vers un individu qui possède tout simplement un botnet assez grand et lui demander combien d'ordinateurs d'entreprises ou d'institutions gouvernementales il a déjà réussi à pénétrer avec son panel d'adresses IP. Et ensuite, les agences de renseignement vont voir cet individu et lui disent « je vous donne de l'argent pour récupérer toutes les données que vous avez collectées ». En général, il y en a tellement que le détenteur de botnet n'a même pas conscience de tout ce qu'il a récolté. Et c'est là que le chemin des espions croise celui des spammeurs. Et la deuxième chose, c'est que quand vous êtes infiltré dans des ordinateurs, vous pouvez les contrôler à distance, leur commander d'ouvrir une page web, comme si le propriétaire de machine avait tapé le nom de ce site dans son moteur de recherche Internet et avait cliqué sur le lien pour ouvrir la page. Et avec une petite expérience, vous pouvez bloquer une page web, empêcher un ordinateur d'accéder à un site en particulier. C'est une manière assez différente d'agir, mais le point de vue, le but, c'est toujours de se faire de l'argent. Je vous explique. Imaginez, vous gérez un casino en ligne. Vos utilisateurs sont des passionnés des jeux d'argent et par conséquent, ils ont l'habitude de faire de grosses mises. Alors, qu'est-ce qui se passera si on leur bloque l'accès à votre site? Les utilisateurs seront furieux car ils ont des paris en cours et ne pourront pas savoir si vous les avez arnaqués ou pas, mais ça va se tasser. Puis comme ils sont accros, ils vont s'empresser de trouver un autre site que le vôtre pour parier. Le plus drôle, c'est que vous allez recevoir un mail vous disant « Hey, je suis désolé de ce qui est arrivé à votre site, il faut espérer que ça ne durera pas longtemps. » parce que vous avez déjà vu les dommages causés en 3/4 d'heure seulement. Si vous nous donnez 50 000 $, je peux vous assurer qu'on vous remettra votre site en marche. Et c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire avec des botnets. Avec un botnet, vous pouvez carrément vous attaquer à des nations entières, à des institutions militaires, des institutions civiles, et même si de plus en plus de moyens sont mis en place pour essayer de neutraliser ces attaques, il reste un énorme problème. En fait, c'est l'interconnexion des ordinateurs entre eux qui est devenue une véritable arme.
Pour parler aussi donc de l'automation du spam qui est donc à la racine de ce phénomène des botnets, vous parlez également de toute une zone un peu grise, un peu limitrophe qui existe dans le spam contemporain, qui est la zone donc de ce que vous appelez le journalisme algorithmique, mais aussi les sites de content farm, c'est-à-dire ferme de contenu littéralement, et aussi linkbait, c'est-à-dire des sites qui proposent des articles qui sont une espèce d'agrégat de diverses informations ou de headlines, de gros titres complètement... qui sont vraiment conçus pour faire cliquer les utilisateurs. Et alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le spam, aujourd'hui, étant donné l'économie d'attention sur laquelle fonctionne Internet, devient de plus en plus indiscernable de toute une autre série de types de contenus qui sont vraiment du surplus, vraiment du junk? Et le deuxième point aussi que vous soulevez, c'est le rôle que joue le spam dans la définition de ce qui appartient aux robots et de ce qui appartient aux humains, puisque les filtres anti-spam sont perpétuellement améliorés pour justement faire cette distinction même entre ce qui est du robot et ce qui est de l'humain. En quoi le spam fait bouger cette ligne?
Il y a une sorte d'interrogation un peu comme un koan, vous savez, ces petites phrases utilisées dans le bouddhisme japonais. Cette interrogation, c'est si un spam, en message ou en commentaire, se révèle être utile à quelqu'un, est-ce qu'on peut toujours parler de spam? À partir du moment où quelqu'un trouve quelque chose d'intéressant dans un contenu produit par un spammeur qui utilise un système de production automatique, est-ce que c'est toujours un spam? On peut se demander comment on arrive à repérer un spam dans notre société qui est finalement largement inondée de spam. C'est par exemple ces pseudo-publicités de produits pharmaceutiques, là, le testament d'un prince nigérien, etc. Tout ce que vous trouvez écrit dans un langage relativement pauvre.
Mais
il y a cette forme de spam, mais il y en a une autre que l'on croise un peu moins souvent et qui joue avec les moteurs de recherche. Cette fois-ci, le but, c'est de créer des pages web, des pages Wikipédia, des blogs, des posts sur Facebook et Twitter, bref, de produire des publications dans lesquelles on va inclure des liens hypertextes. Tout l'intérêt, ce sont les liens hypertextes. Parce que ce sont ces liens qui renvoient aux pages de spam publicitaire. Et c'est en cliquant dessus que vous y arrivez et que vous ouvrez la porte de votre ordinateur au programme infecté. Et là-dessus, que le spam fait son profit, sans compter bien sûr que vous êtes, plus vous êtes référencé par des liens hypertextes, plus vous semblez important aux yeux de Google, et donc plus vous serez visible. Du coup, votre référencement s'améliorera. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que pour être publié, pour passer au-delà des filtres, une page, même si elle compte tout un tas de liens hypertextes, doit se conformer à un critère spécifique qui se loge dans le style de l'écriture. Elle doit être bien écrite, elle doit donner l'illusion d'avoir été écrite par un homme et non par une machine. Et ce qui est fascinant, c'est que les systèmes automatisés qui produisent des textes via des algorithmes concurrents concurrencent de plus en plus la rédaction de contenus similaires par des individus. La dernière fois qu'on a vu un modèle de ce genre, c'était dans une entreprise qui s'appelle Demand Media. Une entreprise qui se cache derrière beaucoup de sites web et beaucoup des sites web les plus visités par jour. Demand Media embauche des pigistes pour écrire des articles à la chaîne dont les thèmes reprennent les mots-clés les plus en vogue. Et leur argument principal, c'est de dire « mais nous ne sommes pas de vrais spammers parce que nous sommes des humains qui écrivent des articles qui sont eux-mêmes lus par d'autres humains. Et ces articles traitent de sujets qui intéressent les gens. Alors comment peut-on être plus légitime que ça ?» Et c'est vrai que tout ceci se déroule dans une sorte de zone grise, pas moins intéressante, hein, avec beaucoup de vrais escrocs qui utilisent des systèmes automatiques qui repèrent des mots-clés les plus tapés dans les moteurs de recherche et qui scrollent ensuite le web à la recherche de tous les textes y correspondant. Et puis un programme regroupe tout ça dans une sorte de mash-up textuel et met en ligne ces agglomérats de textes. Avec ce système-là, il devient de plus en plus difficile de distinguer des spams de textes écrits par de véritables personnes. Et je trouve ça assez fascinant, tous ces projets qui ont été faits en matière d'écriture machinique. Il y a une certaine poésie dans ce système qui produit des textes au hasard. J'ai vraiment pris plaisir à enquêter là-dessus. Et la chose qui m'a le plus intéressé, c'est la découverte de spam littéraire, qu'on appelle en anglais lit spam ou encore spam lit. Il s'agit de fragments de vers ou de prose collés ensemble. C'est encore une logique unique et fondamentalement inhumaine. Ça ne ressemble pas à l'écriture automatique du surréalisme, hein, ni au style onirique de Robert Desnos. Ça ne ressemble pas non plus au découpage de William Burroughs. En fait, ça ressemble à un travail algorithmique, car tout est choisi au hasard, un peu comme chez Tristan Tzara, là, qui choisissait des mots au fond d'un chapeau. Les associations n'étaient pas liées à des associations subconscientes, mais il s'agissait de choisir des mots en comparant les combinaisons qu'on peut former. Avec les machines, c'est la même chose. Les appareils surveillent les probabilités que ces associations attirent l'attention. Et ce que ça produit au final, c'est un effet que j'ai trouvé très difficile à décrire, mais qui est assez proche du zapping télévisuel. Vous voyez, le cerveau humain ne se soumet pas bêtement à ces compilations automatisées, il fait des bons entre. Voilà, moi je pense qu'il y a deux aspects dans cette mécanique du XXIe siècle. Un côté pratique, et puis un autre, un peu artistique, un peu poétique. Et je pense qu'il faut voir une certaine forme de beauté dans ce langage vaguement extraterrestre. Unthinking yet quite compelling machine literary process. I think that is a space for both practical but also for like artistic and aesthetic investigation in the 21st century. I think there's actually quite deep and beautiful things there in this encounter with alien language.
Un point aussi que je voudrais quand même aborder avant qu'on finisse, c'est la question du rôle des métaphores dont vous parlez assez comme un fil rouge dans le livre. C'est cette idée que les métaphores ne sont pas juste une fleur de rhétorique pour décrire quelque chose, mais qu'elles ont, notamment dans le cas d'Internet, de vrais effets, puisque la façon dont on va conceptualiser par une image un phénomène, ici le spam, va aussi déterminer les façons dont on va s'y attaquer, les lois qui vont l'encadrer, les dispositifs qui vont aussi s'y attaquer. Alors, quelles ont été les difficultés majeures pour décrire par des métaphores le spam? Et à votre avis, quelles sont les métaphores les plus adaptées?
Metaphors are one of the most crucial ways that we can deal with new technologies.
Les métaphores sont le recours le plus courant pour parler des nouvelles technologies. Qui plus est, les métaphores portent en elles une force intrinsèque qui nous aide à comprendre les choses. Elles disent également la manière dont les choses nous touchent. Par exemple, c'est une chose de dire que le MP3 est une version numérique de la cassette, ou que le spam est une version numérique des publicités par téléphone. Mais c'est pas si simple que ça. Reprenons l'exemple du MP3. Il peut être copié, diffusé, remixé, une chose qui n'était pas possible de faire avec une cassette. Mais le spam, c'est pareil. Il fait des choses que ne faisaient pas les publicités par téléphone. Par exemple, il peut surgir sur votre écran d'ordinateur sans vous demander l'autorisation d'entrer. Alors que quand le téléphone sonnait, vous pouviez toujours refuser de répondre. En fait, ce qui change avec le spam, comme j'explique plus en détail dans mon livre, c'est que l'internaute n'a absolument aucun contrôle sur les pages qui sont en train de s'ouvrir à son insu. On dit souvent que le spam est partout. Et en effet, le spam n'est pas seulement présent dans les interactions entre les spammeurs et les internautes. Il est aussi là en ce moment, alors que nous sommes en train de réfléchir si on doit l'exclure du système, quelles pratiques on doit proscrire, ou on doit tracer des frontières, pendant qu'on discute de ce qu'on devrait faire pour rendre le système plus fonctionnel, plus sûr.
Internet about what it is that we need to exclude from the system, what it is that we need to stop, where we need to draw certain lines in order to make the system more valuable, more meaningful for all of us. Spam is, in an indirect way, a political argument.
Dans votre livre, quand même, il est perceptible que vous aimez, il y a quelque chose que vous aimez bien dans le spam, ça vous fait rire, ça vous touche.
It's never a good idea to write a book about something that you just hate. After a certain point,
c'est jamais une très bonne idée de consacrer un livre à quelque chose qu'on ne porte pas dans son cœur. Au bout d'un certain temps, vous n'apprenez peut-être pas à l'apprécier, mais vous développez une espèce de respect pour le sujet. De toute manière, la pure aversion n'est jamais une perspective très intéressante. J'ai développé une forme d'affection toute particulière pour les catégories de spam les plus inventives. Un spam qui m'a toujours beaucoup plu avec sa manière de pénétrer la psychologie humaine, c'est celui qui se présente comme venant d'un détective privé. Une forme finalement assez rare de spam. C'est un courrier indésirable que vous recevrez certainement un jour. Ça fonctionne un peu comme par éruption, souvent aux États-Unis. Parfois, en Asie du Sud-Est, vous recevez un message avec un document sonore en pièce jointe, un document MP3, quelque chose comme ça, un son numérisé. Le message prétend provenir d'un détective privé qui aurait été embauché par quelqu'un de votre entourage pour enquêter sur vous. Ayant trouvé des choses à votre sujet, il veut passer un marché avec vous pour que ces informations ne fuitent pas. Les informations qui prouvent qu'il a enquêté sur vous sont dans la pièce jointe qui est présentée comme l'enregistrement sonore de l'un de vos appels téléphoniques. Car l'idée est la suivante, vous téléchargez ce document, qui en réalité se révèle être un fichier qui contamine notre ordinateur et l'infecte via plusieurs logiciels malveillants dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Ce qui est à la fois horrible et magnifique dans cette catégorie de messages et ce qui fait son efficacité, c'est qu'il présuppose que tout le monde ou presque a des secrets. Au point de croire que quelqu'un pourrait avoir engagé un détective privé pour l'espionner. Ces messages surfent sur l'idée que les gens ont quelque chose à cacher. Et ça me rappelle une de mes plaisanteries préférées dans l'histoire de la littérature. C'est un télégramme envoyé par Conan Doyle aux 10 personnes les plus puissantes et les plus respectées de Londres. Un télégramme qui disait juste fuyez tout de suite, tout a été découvert. Eh bien, les 10 personnes ont fui dans la nuit. Il y a quelque chose dans ce spam qui fait qu'il ne peut fonctionner que s'il trouve un écho en nous et s'il touche aux fragilités de nos propres vies. Lust and all of these other similar human frailties. There's something in spam that only works because it finds an echo in us, our sense of our own fallible lives. Merci à Finn Brunton. Vous retrouverez toutes ces références sur la page de Place de la Toile, une page où vous pourrez aussi réécouter cet entretien dans sa version française, telle que vous venez de l'entendre, mais aussi en version intégralement originale pour celles et ceux qui comprennent l'anglais. C'est beaucoup plus agréable. Et vous pourrez télécharger cette émission pendant un an et la réécouter donc pendant 3. Un grand merci aussi à Claire Richard pour ce passionnant entretien. Et Claire qu'on retrouvera dans 15 jours pour une émission sur la politique du design et puis pour deux autres grands entretiens américains qui cloreront la saison, dont Ethan Zuckerman. Merci à nos deux stagiaires Marie Mougin et Cola Zibo pour avoir assuré la transcription et la traduction des propos de Brunton. Alors la semaine prochaine, eh bien, ce sera un week-end foot sur France Culture quelques jours avant le début de la Coupe du Monde au Brésil. Alors quant à nous, nous consacrerons une émission aux interactions entre le foot et le jeu vidéo. Vous savez que les jeux vidéo de foot sont une catégorie entière à part du jeu vidéo. Alors comment on fabrique ces jeux, comment on représente le foot, avec quelle idée du jeu, quelle idée du foot, quelle idée du corps, et puis en quoi le fait que les joueurs de foot soient aussi des gamers puisse avoir un rôle quelconque sur le terrain. Ce sera donc la semaine prochaine dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Cola Zibo, à la technique c'était Théo Gomard, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture dans quelques instants. Elisabeth Tchungi et son magazine de musique sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.